With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail? C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boule au ventre et démotivation? Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances, je vous recommande plus que jamais le parcours Chance, partenaire d'émotion. Chance est une communauté d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail. La communauté Chance a une méthode unique qui a fait ses preuves. La première étape, c'est celle du bilan de compétences. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous anime vraiment, avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute!
Pouvez-vous vous définir? C'est la question que pose une étudiante en sociologie à Mira et Jonathan. Mariés depuis des années, au tout début du premier épisode de Scènes de la vie conjugale, une série réalisée par Agaï Lévy. L'exercice peut sembler simple, mais les deux personnages, interprétés par Jessica Chastain et Oscar Isaac, sont décontenancés. L'étudiante reformule sa question. Quels sont les attributs sans lesquels vous ne vous imaginez pas? Après une courte réflexion, Jonathan répond « Je suis un homme, je suis juif, je suis un père, je suis un universitaire, j'ai 41 ans, je suis démocrate et asthmatique. » Et Mira ne peut s'empêcher d'exprimer sa surprise qu'il puisse se sentir défini par son asthme. Jonathan lui répond « Quand tu traînes toute ta vie le risque de t'étouffer, ça finit par faire partie de ta personnalité. » Lorsqu'on souffre d'une pathologie depuis l'enfance, quelle que soit sa sévérité, cette pathologie appartient à notre identité. Dans ce 3e épisode de « À la recherche de l'attention », Jeff, Thomas, Sarah et Ibrahim racontent comment leur trouble de l'attention fait partie d'eux et d'elles et en quoi il les définit en partie. Développé par le studio Majora, ce podcast libère la parole des personnes atteintes de TDA et c'est pourquoi nous avions envie, chez Louis Média, de le partager avec vous, auditrices et auditeurs d'émotions. À la recherche de l'attention est un podcast réalisé par Pierre et Mathieu Chaffanjon du studio Majora. Ce documentaire vous plonge dans la vie de 4 adultes atteints du TDAH. Leurs témoignages intenses sont éclairés et enrichis par celui du docteur Isabelle Lafont, psychiatre et responsable de la consultation TDAH de l'adulte à l'hôpital Sainte-Anne. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
Quand le médecin me dit « on se donne rendez-vous à Sainte-Anne », sur le coup, je comprends pas. Je me dis « je vais me faire interner » ou quelque chose comme ça. Et puis, je me retrouve au milieu. C'est pas de la méconsidération. Hein. Ce sont des cas cliniques, des personnes qui ont des soucis psychiatriques. Et que c'est apparemment aussi un problème psychiatrique que le TDAH. Et qu'on se retrouve face à des personnes qui ont des problèmes psychiatriques lourds pour obtenir une ordonnance d'un produit qui va pas me mettre en état comme quelqu'un qui aurait pris de la coke ou non, c'est juste souffler, pouvoir se concentrer sur une tâche à la fois, entamer une tâche, la finir.
C'est marrant parce que le traitement m'a quand même posé plein de questions. Ça m'a posé des questions au niveau de mon éthique personnelle. Ça m'a posé des questions même au niveau de ma foi aussi personnelle. Même au niveau au niveau du corps en fait, au niveau de ce que ça allait pouvoir représenter. Et ma première réaction, c'était une réaction d'orgueil en fait. C'est-à-dire, j'en ai pas besoin. Et le docteur Lafont me disait à chaque fois, il me disait, mais Vous êtes déjà dans une logique d'automédication, inévitablement, en fait. Vous êtes déjà approprié, finalement, l'automédication. Vous voyez? Et puis, finalement, c'est vrai que c'est ça qui caractérise aussi le TDAH, c'est que le TDAH, il est pulsionnel. En tout cas, moi, j'ai un TDAH pulsionnel, qui est une des sous-briques, si je dis pas de bêtises, une des arborescences du TDAH. Et c'est quelque chose qu'on dit pas aussi assez, mais il y a plusieurs intensités de TDAH, et des gens qui sont très marqués par certains trucs, et d'autres pas du tout par d'autres. C'est ça qui rend, en fait, finalement, la compréhension de ce trouble très particulier. Et toute la réflexion, finalement, autour d'avoir une approche médicamenteuse, c'était de me dire, est-ce que tu vas continuer un peu à t'automédiquer? C'est-à-dire, en fin de semaine, t'es frustré au niveau du taf, ou machin, ou peine de cœur, ou il y a un truc qui s'est pas bien passé, ou t'as juste envie de, tu vas sortir, et puis, aller boire, le lendemain, t'as recommencé boire. Là, j'étais arrivé, en fait, à un moment où je m'étais dit, soit je continue un peu à m'automédiquer, ou alors j'essaie quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et en fait, j'ai pris conscience que, finalement, toutes les opportunités, en fait, toutes les perches qui m'étaient tendues, et Isabelle Lafont en était d'une, comme les autres thérapeutes que j'avais rencontrés, comme tous les professeurs ou autres pédagogues, mes parents qui ont toujours cru en moi et tout, mais tout ça était autant de perches aussi qu'il fallait saisir. Le traitement contre les TDAH, c'était une nouvelle perche, en fait. Et je me suis dit, je me suis un peu jeté à l'eau dans une démarche d'abandon, en me disant, fais confiance, vas-y. Un traitement médicamenteux, c'est une des manières, finalement, de pouvoir attaquer certaines choses en son TDAH. Moi, pour moi, ça a été la concentration, ça a été la constance, la constance pendant médicamentée, une constance dans la concentration. Voilà, là, ça me permet de rehausser un peu mon jeu sur certaines choses de ma vie, la paperasse, des trucs qui me faisaient un peu souffrir, même au boulot, quand parfois je commençais un peu à décrocher, ma faculté, en fait, à décrocher dans une conversation, parce que c'est vraiment là où j'ai compris que j'avais un problème, entre guillemets, je pense, quand j'étais enfant et adolescent. J'entre presque même dans une période où maintenant je me dis, j'ai fait pas mal de pompes, je me sens un peu solide sur mes appuis. Là, j'ai pas pris mon traitement. Derrière, j'ai une journée de travail. Je me sens à l'aise pour y aller, pour l'affronter. Mais ça, c'est aussi parce que je suis passé par cette phase qui est de plusieurs mois aussi à reprendre aussi confiance en soi par rapport à certaines tâches qu'avant je n'exécutais plus forcément. C'est un mindset aussi, c'est un regard sur soi, c'est plein de choses, quoi.
Assez naturellement, quelqu'un avec un TDAH va éviter certaines choses parce qu'il n'est pas bon dans ces choses-là, parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il n'arrive pas à se concentrer, parce que il peut éviter de conduire, il peut éviter d'écrire, il peut éviter de lire, il peut éviter les discussions trop longues, il peut éviter de regarder des films, mais il ne s'en rend pas compte. Il se dit pas « je vais éviter ces choses-là ». Ça se fait de façon très intuitive et insidieuse. Et petit à petit, il va se définir par rapport à toutes ces choses-là qu'il a évitées en disant « j'aime pas ». Quand on a peur de quelque chose ou qu'on est en difficulté dans quelque chose, on dit « j'aime pas ». Quand on a énormément de mal à apprendre à conduire, on dit « j'aime pas conduire ». Voyez. Au moment du diagnostic, quand la personne a 30, 40, 50 ans, tous ces évitements accumulés vont forger une espèce d'identité qui est fausse. Et ça, c'est des choses qui se détricotent assez lentement. Et même plusieurs années après le diagnostic, il y a des trucs où la personne se dit « Ah, mais ça, c'était à cause de ça. Ah, mais j'ai demandé à changer d'école parce que c'était mon TDAH, en fait, qui était en jeu, mais j'avais pas compris ça. » Vous voyez, c'est des choses qui peuvent mettre des années et des années à se mettre à jour. Et la découverte, j'ai un patient journaliste, il pensait qu'il ne pouvait écrire que des articles. Une fois qu'il a connu son TDAH et qu'il a été traité, il s'est rendu compte qu'il pouvait écrire des livres. Et il s'est mis à écrire des livres qui ont eu beaucoup de succès. Mais il pensait qu'il n'aimait pas écrire des livres, il aimait écrire des articles. Voyez, donc c'est très intéressant, cette espèce de conquête de sa propre identité qui a été volée et masquée par ce TDAH qui a orienté, guidé un certain type de développement.
Pour leur faire plaisir, une certaine vision de l'avenir, plutôt pessimiste, mais ça faut pas le dire. Je m'accroche à tout ce qui me rappelle le pire. Dès qu'il s'agit de vivre, j'ai des lacunes. Ils vendent tous leurs âmes pour faire la une. Donc c'est peut-être mieux que j'enchaîne les piges. L'amour est mort en 2001, j'avais 4 piges. On fait comme on peut, mais c'est déjà trop. Je regarde pas dans le rétro, quelque part je sais que j'rappe pour plus prendre le métro. Dans ma tête, celle de bord, y'a des signes et des formes qui se répètent et qui suivent le même schéma. J'aimerais être lisible, à vrai dire, c'est cette dérive. Y'a des gens qui m'aiment, je le supporte pas. Dans ma tête, celle de l'bord, y'a des signes et des formes qui se répètent et qui suivent le même schéma. J'aimerais être lisible, à vrai dire, c'est terrible. Y'a des gens qui m'aiment, je le supporte pas. Je suis tiraillé, on comprend le monde dans lequel j'évolue. Et fumer des longs sans me poser de questions. Non, non, y'a pas d'excuses à tous leurs propos. On leur met des baffes comme Johnny Cage. Ouais, ouais, allons sur ce que tu proposes. Je fais dans l'exploit comme David Blaine. Dans quel merdier on s'est foutu. T'aimes seulement le CV de ceux d'en haut. Tout ce qui nous arrive est voulu. Y'a quelque chose qui scintille tout là. Dans ma tête celle de l'bord, y'a des signes et des formes qui se répètent et qui suivent le même schéma. J'aimerais être lisible, à vrai dire c'est terrible. Y'a des gens qui m'aiment, je le supporte pas. Dans ma tête celle de l'bord, y'a des signes et des formes qui se répètent et qui suivent le même schéma. J'aimerais être lisible, à vrai dire c'est terrible. Y'a des gens qui m'aiment, je le supporte pas.
Je me rappelle, à Noisy-le-Grand, j'habitais chez un ancien collègue à mon père. Je quittais Le Mans, quoi, la région du Mans, que j'adorais et tout. Je me retrouvais en Île-de-France, au milieu de gens que je connaissais à peine et tout. Donc le fils de mon logeur, là, qui me dit « il faut que je trouve des amis ». Je me suis retrouvé avec des gars que j'ai fini par apprécier. Hein. Mais c'était pas moi. Les mecs, ils graffaient, ils taguaient, ils faisaient du rap. Il écrit beaucoup, donc forcément, c'est caricatural. Mais en gros, si on est noir, faut écouter du rap. Quand on est blanc, on ne fait pas de rap. Et puis, je me suis retrouvé à rentrer dans un rôle qui me ressemblait pas. Je suis guitare électrique, gamin, j'écoutais Hendrix. Je me rends compte à ce moment-là que, en fait, j'ai laissé décider à ma place. Et que donc, on m'a posé à un endroit qui n'était pas ma place. On a dit ça, c'est ta place. Aujourd'hui, je comprends qu'en fait, la société avec les TDAH, c'est ce qu'elle fait. C'est qu'elle dit, je sais pas trop quoi faire de toi. Alors, on va essayer de t'expliquer comment on fonctionne. Ce serait bien que tu fasses un effort. Bon, mais tu sais pas quels efforts on fait.
Moi, j'ai grandi dans une famille où consulter pour la santé mentale, voilà, c'est ça. Mon père, texto, il m'a déjà dit plusieurs fois, les psys, c'est pour les fous et les faibles. Un autre truc qui m'a empêchée, je pense, d'avoir un diagnostic et une prise en charge précoce, c'est le fait d'être une fille, vraiment. De grandir en tant que fille, comme c'est pas forcément la même clinique que le TDAH versant des gens qui grandissent comme des garçons, c'est beaucoup moins vu parce que moi, mon hyperactivité, elle se ressent pas tellement dans le sens où je bondissais partout quand j'étais enfant, mais dans ma tête, pas forcément de manière comportementale à me lever, sauter dans tous les sens dans la pièce. Je me sens comme si dans ma tête, mes idées font, tu sais, ça allume partout dans le flipper, tu vois, genre dans les bars des années 90. Donc moi, c'est la bille dans le flipper, c'est ce que je ressens. Je suis la bille.
Tu t'aperçois que ta vie, bah, t'as passé plus de temps en période d'inactivité, chômage, dépression, que période de travail. Puis à un moment, tu te retrouves à 50 ans, tu as toujours cette espèce de décalage qui est en toi. Tu te dis, mais pourquoi les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Il n'y a pas de la jalousie, c'est pas comme ça, c'est juste que tu t'interroges.
Je prends conscience en fait de la chance et peut-être une fois de plus la providence d'avoir pu baigner dans un milieu culturel favorable, où on stimule, on amène aussi à faire du sport et tout, etc. Et finalement en fait je mesure la chance que j'ai eue de grandir avec un TDAH dans cet univers plutôt que dans un autre. Et dans un autre milieu socio-culturel, je pense que les problèmes de la vie, on les prend avec un TDAH quand on a du mal à faire sa paperasse, quand on a du mal à se concentrer, quand on n'a pas aussi un bagage culturel, parce que l'éducation amène aussi un bagage culturel, et pas qu'intellectuel finalement, des codes, une manière d'être, un savoir-être, etc. Enfin, qu'on a en soi, mais que les parents accompagnent et stimulent, bah ça c'est une chance que tout le monde n'a pas. Et j'imagine que dans d'autres environnements, bah ça doit être d'autant plus difficile. Et c'est là où, rapidement, quand on tombe dans les addictions, on a moins de garde-fous. Et quand on a moins de garde-fous, on va plus loin. Et quand on va plus loin dans l'addiction, il y a un processus de destruction qui s'enclenche, qui est de haute intensité, quoi. Et quand on en arrive à ce niveau-là, là, il y a des warnings sérieux, en tout cas.
Alors, quand on n'a pas la chance d'avoir un milieu familial structurant, avec des parents attentifs qui vont coacher l'enfant avec ses difficultés de TDAH, en général, enfin, il y en a beaucoup qui vont être dans la rue avec les copains à traîner parce que, ils n'arrivent pas à faire leurs devoirs, Il y en a beaucoup qui vont être déscolarisés alors qu'ils ont tout à fait les capacités de suivre une bonne scolarité. Il y en a beaucoup qui vont aller vers des consommations de substances parce que les substances, elles sont recherchées parce qu'elles aident le TDAH à se concentrer ou à se calmer ou à se détendre. La prévalence du TDAH en prison, c'est plus de 30%. Il y en a aussi pas mal dans l'armée parce que justement, ça représente un cadre très très rigide et qui a un certain nombre de personnes avec TDAH qui vont rechercher ça pour arriver à se canaliser. Et il y a énormément de personnes qui effectivement vont passer à côté de ce qu'ils auraient voulu faire dans la vie parce que ça n'a pas été accessible à cause de leur TDAH, alors que ils auraient tout à fait eu les moyens de le faire. Il y a un manque de moyens absolument énorme. Moi, je suis sidéré de la lenteur d'évolution de la prise en charge médicale. Je pensais que ça fait une dizaine d'années que je m'occupe de TDAH et je pensais qu'il y aurait en 10 ans énormément de jeunes psychiatres qui seraient tous capables de s'occuper de TDAH. Je pensais que les services hospitaliers allaient fleurir, et pas du tout. C'est très lent. Alors, ça va peut-être arriver dans la décennie qui vient, mais pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'en pratique, il y a des listes d'attente de plusieurs mois, voire plusieurs années, dans le public et en libéral. C'est pas si facile, même en libéral, de rencontrer un psychiatre. Et puis, avec des zones entières en France où il n'y a rien. C'est-à-dire que moi, je vois des gens qui viennent qui font plusieurs centaines de kilomètres pour venir consulter à Paris. Vous voyez, les gens qui sont dans des milieux sociaux un peu défavorisés, comment ils vont pouvoir imaginer qu'ils ont un TDAH ?
Quand tu rentres dans ce parcours de santé mentale malgré toi, parce que juste t'es malade, tu perds une certaine innocence de qu'est-ce que mon cerveau est capable de me dire comme mensonge.
Ça, c'est le versant très cruel du TDAH. C'est habiter sans habiter. Voilà, être là sans être là. Être avec les êtres aimés sans vraiment pouvoir être avec eux et pouvoir les rejoindre ou se laisser rejoindre, qui est le propre de l'amour, en fait. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est donner, c'est se donner et recevoir, en fait. Et c'est ça, enfin, pour moi, fondamentalement, qui met le cœur en paix. Et ça, c'est quelque chose qui est révoltant. De voir cette souffrance-là, d'être là sans être, au milieu des gens qui nous aiment, qui ne demandent qu'à nous aimer ou qu'à recevoir notre amour, ça m'a révolté sur ce que ça a produit et développé dans ma vie. Je pense que toute initiative, en tout cas, qui vise à amener des gens à aller voir des thérapeutes pour prendre conscience de ce phénomène, toutes ces initiatives sont vraiment excellentes. Faut pas surdiagnostiquer, comme on l'a fait aux États-Unis. Faut pas surmédicamenter, notamment les petits enfants. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Mais par contre, il faut dire concrètement ce que le TDAH, en fait, peut produire de plus triste dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un adulte, dans la vie d'un grand adulte aussi.
Il Moi, j'aime bien cette notion de neurotypicité ou de neuroatypicité, apprendre dans un cadre beaucoup plus large des particularités, en fait, de chacun, et qu'aujourd'hui, je trouve, on voit aussi assez bien développé, élaboré dans le domaine du genre et de la sexualité, cette façon de penser l'être humain comme étant une collection de personnes avec des particularités.
À la recherche de l'attention est un projet réalisé par Majora. Les musiques, les entretiens, le montage, le mixage et le mastering sont l'œuvre de Mathieu et Pierre Chaffanjon. Un grand merci à Ibrahim, Jeff, Sarah et Thomas qui nous ont accordé leur confiance. Merci au docteur Lafont qui, par sa bienveillance et son soutien, a permis que ce projet devienne réalité. Un merci tout particulier à Juliette Lichet. Merci à Sarah, Charlie et Yuri. Merci à Chloé et à Maxence.
Vous venez d'écouter le troisième et dernier épisode de À la recherche de l'attention, une production du studio Majora. Majora est une société de conception et de réalisation de podcasts fondée en 2020 à Paris. Pierre et Mathieu Chaffanjon, deux frères passionnés de musique ayant baigné dans le monde de la radio, ont choisi de monter leur propre structure pour réaliser des œuvres originales. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler du film Rosalie, qui est actuellement au cinéma. Un film réalisé par Stéphanie Di Giusto, qui présente le destin de Rosalie, une jeune femme qui se découvre et s'émancipe dans la France très puritaine de 1870. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Rosalie est une femme à barbe, un trait physique quelque peu particulier, surtout pour les mœurs de l'époque. On vit avec Rosalie sa quête d'amour et de liberté face à une société qui ne l'accepte pas à cause de sa différence. Le film réunit pour la première fois Nadia Tereskevitch et Benoît Maginel, tous les deux très touchants dans cette histoire d'amour complexe, mais très belle. Alors n'attendez plus pour aller voir Rosalie au cinéma dès maintenant et découvrir ce film qui célèbre l'acceptation de soi et des autres. Vous pouvez aussi découvrir l'interview de Nadia Tereskevitch, le personnage principal du film, dans notre dernier épisode de Pépite. À très vite!
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.